bonsoir, bonjour à tous, bigayou, bigayous et bigayoutes. Ici c'est Juliette, assistée de Jérôme pour une nouvelle mission de L'Art au passage. Et aujourd'hui encore une rediffusion de Art racaille, une émission réalisée par nos amis Dominique, alias Piquecou et Robert. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un artiste. Un artiste que tout le monde connaît pour ses petites images qui ne sont pas de lui, mais qu'on appelle les poulbeaux. Tout le monde connaît ses enfants aux grands yeux, un peu sinistres. Moi, je trouve ça assez terrible comme image, mais bon, apparemment, ça plaît puisque ça se vend à Montmartre. Mais l'origine de ces images d'enfants est due à un homme qui s'appelle Francisque Poulbeau, qui dessinait pas du tout comme ça, et qui est un homme de la fin du 19e, début 20e, né à Saint-Denis et mort à Paris, voilà, qui était donc un dessinateur, un affichiste, un illustrateur et un goguetier. Alors un goguetier, qu'est-ce qu'un goguetier ? Un goguetier, alors j'ai trouvé la définition de ce terme, donc ça vient du mot goguette. La goguette était une ancienne pratique sociale et festive en France et en Belgique qui constituait à se réunir en petits groupes amicaux, plutôt masculins, de moins de 20 personnes pour passer ensemble un bon moment et chanter. Et puis cette pratique devient la base de sociétés festives et carnavalesques constituées. Voilà pour la définition du mot goguette. Quant à Francisque Poulbeau, il fut un grand défenseur de Montmartre. Alors on retourne à Paris. C'est un homme qui s'intéressa à ce qui se passait autour de lui, qui lutta contre les promoteurs immobiliers et avec beaucoup d'ardeur et s'occupa aussi de la cause des enfants. Voilà, très attaché à la vie montmartroise, il s'associa avec d'autres à la création de ce qu'on appelle la République de Montmartre, qui existe encore aujourd'hui. Voilà, donc il venait en aide aux enfants nécessiteux de Montmartre et ouvrit des dispensaires, dont les petits poulbeaux rue Le Pic, qui existent toujours. Voilà. Je vous souhaite une très belle émission en compagnie de Piquecou et de Robert qui vont vous en dire un petit peu plus sur cet homme exceptionnel.
C'est aussi l'émission Art racaille qui va consacrer maintenant sa partie artistique à Francisque Poulbeau. C'est un prénom, Francisque c'est espagnol, non ? Je sais pas où, alors c'est pas le nom de la Francisque quand même. Francisque Poulbeau. Un dessinateur dont l'heure de gloire était quand même pas si brève que ça, c'était avant la guerre, entre les deux guerres plutôt. Voilà, il a travaillé beaucoup, c'est lui qui a créé ce personnage légendaire de Poulbeau, voilà. Mais il n'a pas fait que créer le personnage, il a aussi toute sa vie consacré une grande partie de sa vie à secourir ses enfants du maquis montmartrois, ces petits miséreux, ces petits galvaudeux, en créant un dispensaire pour eux et d'autres œuvres qui pouvaient les sortir un petit peu de cette misère, de cette faim, de ce froid. Parce qu'il faut dire qu'il y avait des saisons quand même assez froides à cette époque-là, beaucoup plus que maintenant. Et puis ces petits gamins, ben voilà, ils étaient dans la rue la plupart du temps. Bon, j'arrête là mon blabla, pour laisser la parole à ma camarade Piquecou, qui va vous lire un extrait de Faubourg de Lucien Bourgeois, voilà, aux éditions Plein Champ.
Ouais, alors effectivement, on avait déjà parlé de Lucien Bourgeois, hein, qui a connu la misère noire, qui a pratiqué plein de métiers, qui a fini par s'en sortir, qui a rencontré Henri Poulaï et puis qui a travaillé comme magasinier, teneur de livres. Enfin, bon, donc on avait raconté tout ça. Et Faubourg, donc, est un de ses écrits, de ses romans, c'est 12 récits prolétariens. Donc là, effectivement, on va côtoyer à travers une douzaine de nouvelles, donc des cas de misère terrible.
Terrible.
Et il y en a une qui est justement qui correspond bien aux enfants du maquis de Montmartre de l'époque de Poulbeau, qui s'appelle Gégène l'orphelin. Et il a écrit cette nouvelle en pensant au fils de son frère, donc à son neveu, qui avait perdu donc son père à la guerre de 14. Donc Jajen l'orphelin. Les enfants jouaient dans la cour de la maison. Ils étaient misérables comme elle, pareils à une morte ancienne sous sa couleur brunâtre, avec les ouvertures béantes de ses fenêtres, tels les trous noirs d'orbites vides. Toutes ces chambres étaient ainsi désertées à cause de la chaleur soudaine, et des femmes s'étaient assises au frais dans la caisse d'une vieille voiture sans roues auprès des gosses. La troupe ardente de ceux-ci se répandait avec des cris terribles jusque dans la petite rue faubourienne, bordée d'autres basses masures, que dominaient une ou deux maisons neuves à 6 et 7 étages, massives et élevées comme des monuments. Et la petite rue, tout engourdie du bien-être du soleil, s'en allait finir vers la ligne en creux du chemin de fer de ceinture que voilait le vert léger des acacias en petites boules, annonciateur du printemps. Parmi les enfants, un des plus pauvres et des plus mal vêtus était Jejen, à cause de l'état de négligence absolue dans lequel le tenait sa mère. Il avait une figure ronde avec des cheveux drus, une bouche trop grande, sans cesse entr'ouverte, et des yeux noirs qui, lorsque la passion enfantine du feu ne les agitait pas, reflétaient avec l'innocence la gravité de la lumière de la vie. Cependant, cette fois, le petit garçon mélancolique était muet en guerrier. Il était un miquin, un américain. Des samis avaient eu leur casernement près de la petite et pauvre rue. Brandissant une arme imaginaire, Jejen tuait à profusion des boches. Tous les autres enfants, sous l'inspiration des plus grands, songeaient aussi à tuer dans leur jeu, et un tout petit, ayant au plus 4 ans, qui portait avec peine dans ses bras arrondis un margotin, s'était choisi comme revolver une des bûchettes résinées. Tout cela venait de l'atmosphère guerrière des adultes, car dans la vieille maison, semblable à une morte, quoique beaucoup d'hommes jeunes fussent partis et pas revenus, quoique l'on souffrit toujours des privations de toutes sortes et que les habitants fussent de misérables prolétaires, on était plein de la folie des champs de bataille, exaspérés par l'angoisse des bombardements aériens et entretenus par chaque récit, plus ou moins sincère, de réfugiés. Maintenant, on vivait encore dans cette atmosphère, mais relâchée, on attendait je ne sais quoi, et la haine diminuait difficilement. Cette haine était comme un petit lait gris qu'on buvait chaque matin dans le journal, dont on se nourrissait jusqu'au moment où l'estomac fatigué le rendrait. Seuls les hommes revenus du front, et quelques-uns seulement d'entre eux, ceux qui travaillaient comme manœuvres spécialisées dans les grands ateliers, avaient des idées qu'ils ne communiquaient plus, car cela avait été au début une raison de dispute avec les autres qui vivaient dans l'esprit de guerre. Voilà, ça correspond tout à fait, en fait, à tout ce qu'on va raconter autour de Poulbeau, de ses dessins d'enfants et de ce qu'il va même dessiner lui pendant cette première guerre.
Oui, tout à fait. Oui, parce que ceux qui ont fait... On a vu un film récemment, je ne sais pas si je l'ai vu, si ma camarade l'a vu avec moi, je ne sais plus. Enfin, un film, évidemment, sur la guerre de 14. Ah bah oui, si, c'est le film qu'on a vu au Méliès, là. Les guerrières ou je sais pas quoi. Là, non
ah, les gardiennes dont gardiennes, on va parler ouais, tout à l'heure. Ouais.
Ou les ceux qui reviennent de la guerre, ils n'ont pas du tout le même discours que ceux qui n'y sont pas allés, voilà, qui disent que non. Alors que la haine de l'Allemand est partout, comme avec ses enfants des faubourgs de Paris. Là. Un de ceux qui sont miraculeusement revenu, dit non à la table familiale, dit non, les Allemands sont exactement comme nous, ils ont des femmes, des enfants, ce ne sont pas les monstres qu'on évoque ici, voilà, c'est les combattants savaient ce qui se passait sur le front, ils avaient côtoyé le soi-disant ennemi et ils s'étaient rendu compte que le soi-disant ennemi avait les mêmes souffrances et la même humanité que voilà.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même, c'est un vrai titi. Petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et dont le yardi s'attendrit devant du ange. Pas plus haut que 3 pommes, il lance un défi. Ah, l'aimable bonhomme, il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Et c'est tout l'esprit de Paris qui mugarde. pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches, on le voit qui déguerpit, aussitôt qui voit un képi, un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays, il n'y a le même, c'est un vrai titi, petit Grégory que l'on aime. Il a hérité lors de sa naissance de tout un passé, lourdes conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Il sait que sur des places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris, rempli d'insouciance, voyeur et ravi de la vie qui danse, s'il faut peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, rappelle-toi que la veille, j'aurais réussi à mettre Paris dans une bouteille.
Un gamin de Paris, Patachou.
Oui, l'émission à Racaille, qui consacre aujourd'hui sa partie artistique, on est dedans, à Francisque Poulbeau, voyez-vous. Voilà, bon, je ne vais pas en ajouter plus, c'est ma camarade maintenant qui va mettre son grain de sel dans cette histoire pour vous en conter le menu.
Ouais, alors on peut quand même préciser qu'effectivement, Francisque Poulbeau est quand même passé un peu aux oubliettes. On parle des Poulbeaux parce qu'on a en image ces faux Poulbeaux qui ont été repris, là, qui sont particulièrement horribles, là, avec les grands yeux clairs, les cheveux ébouriffés et tout. Mais effectivement, Poulbeau qui a créé ces gosses de Paris, en fait, c'est difficile de trouver de la documentation sur lui. Donc, heureusement, en bibliothèque, dans la réserve centrale, ils avaient quelques bouquins, mais sinon, Poulbeau reste quand même inconnu, quoi. Enfin,
oui, parce que son œuvre a été complètement dispersée partout, voilà, c'est chez des particuliers maintenant.
Donc, ce Francisque Poulbeau, il naît en 1879 à Saint-Denis, et il sera donc l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Ses parents sont tous deux instituteurs, et lui est formé dans l'esprit de cette nouvelle école républicaine et laïque. Malgré tout, ses résultats scolaires ne sont pas encourageants. Il rate la première partie de son baccalauréat et il cherche sa vocation. Il va suivre des cours à l'Académie de Saint-Denis et il envoie un premier dessin au pêle-mêle. Le pêle-mêle, donc, c'est un gros tirage de la presse illustrée. Et ce dessin est publié à sa grande surprise, ce qui l'encourage à travailler pour d'autres journaux. Son lycée est situé au pied de la butte de Montmartre et donc il entrevoit par la porte de son établissement les dessins de Stenlen ou Villette qui sont sur les murs du Chat Noir et rapidement ces deux dessinateurs vont devenir ses modèles. Il frappe à toutes les portes des rédactions, ce qui va lui permettre de rencontrer pas mal de dessinateurs de sa génération. Ses dessins sont publiés dans de nombreux titres, hein, comme Le Bon Vivant, La Caricature, La Chronique Amusante, Le Gil Blas Illustré, Le Pêle-mêle, Le Sourire. Et lui sillonne la capitale à vélo et essaie ainsi de saisir l'actualité. Il part au service militaire et à son retour, il s'installe donc dans le Maquis. C'est ce quartier de Bicoque, hein, qui est sur le flanc nord-ouest de la butte Montmartre. Et c'est là que vivent la bohème et les chiffonniers. Là, il côtoie Villette, Stenlen, les écrivains Courteline, Paul Fort, Macorland, Dorgelès. Il côtoie aussi des chansonniers comme Aristide Bruand, comme Rictus, et il côtoie de nombreux peintres. Donc la petite bande se retrouve dans les cabarets, les cafés et refait ainsi le monde. Poulbeau collabore à l'Assiette au beurre, donc c'est un hebdomadaire quand même très anticonformiste. Et là, il aborde les problèmes de société, l'armée, l'alcool, la prostitution, l'école, la religion. Et il publie aussi pour le socialisme donc un dessin à la gloire de la Commune de Paris. Et c'est un ardent défenseur du vieux Montmartre qui lutte en fait contre tous les promoteurs immobiliers, et ouais, déjà qui commençaient, qui avaient décidé de faire disparaître ce vieux Montmartre. En 1911 commence donc le percement de l'avenue Junot, la démolition du moulin à poivre et des derniers vestiges du maquis. Poulbeau, lui, vit à Montmartre depuis 1902. Donc d'abord installé dans une bicoque, il déménage ensuite au 12 rue Cortot. 12 rue Cortot, on s'en souvient, c'est là où il y a le musée de Montmartre, là où avait habité aussi Renoir. Il va déménager rue Caulaincourt, rue de l'Orient, et là il se fait même construire un atelier dans son jardin. Donc il déménage, mais à chaque fois il déménage jamais très très loin de là où il était précédemment, quoi. Très tôt, il a rencontré Léona avec laquelle donc il vit en union libre, et lui, bah, il vit entouré d'amis. Il voit très peu sa famille, à l'exception justement d'un de ses frères. Et c'est aussi donc le bout en train de la butte. Donc ils sont toute une équipe. Donc lui, il anime les cafés qu'il fréquente donc avec pas mal de ses amis. Ils peuvent aussi décorer les plafonds, donc faire des dessins. Ils réalisent des enseignes. Et chaque année, au printemps, Francisque et Léona recommencent une cérémonie de mariage en voulant revendiquer l'amour libre. Donc ils se font venir des amis. Et là, ils vont de café en café. Ils sont tous bien habillés. Et la soirée se termine par un bal. Donc quand il est menacé d'expulsion de son logement rue d'Orient, il va aussi convoquer toujours ses amis qui reçoivent une feuille de route timbrée du sceau de Napoléon III et les invite à venir en habit d'officier pour détruire l'atelier. Donc le propriétaire, un peu affolé à cette annonce, en fait, lâche l'affaire, mais toute la bande fait une joyeuse fête et les amis sont tous là. Alors ils sont déguisés, justement, ils ont une arme sur l'épaule. Il anime aussi une troupe de théâtre avec sa bande de Montmartre. Ils se rendent à des vernissages parisiens. Ils se moquent des cubistes, des futuristes avec lesquels ils sont plutôt en froid. Il expose au salon des humoristes. Mais en fait, Poulbeau, effectivement, reste plutôt associé pour nous à l'image du gamin de Paris. En fait, c'est aussi ce père des gosses qu'il va dessiner tout au long de sa vie. Ces gosses de la banlieue nord de Paris, de Saint-Denis à Montmartre, qui viennent tous de classes populaires. Donc tous les aspects de leur vie quotidienne sont abordés, hein, leur éducation se faisant à l'école, mais largement aussi dans la rue. Donc ça, on va y revenir quand tu nous parleras un peu de tous ces dessins qu'il a fait avec ses enfants qui sont mis en scène. 1914, c'est débutent les années de guerre. Poulbeau est envoyé à Brest pour surveiller les convois, mais comme il est de santé fragile, il sera réformé en 1915. De retour à Paris, il entre au journal et là, malheureusement, n'échappe pas à cet élan patriotique. Donc, il travaille pour de nombreux journaux, il multiplie les affiches pour la bonne cause, mais ça peut être aussi les orphelins de guerre, les prisonniers, et c'est quand même toujours par les enfants qu'il s'exprime. Il se lance dans le cinéma, le théâtre, et toujours aux côtés de ses gosses, dont le rôle de Zozo, en fait, il fait un petit film qui s'appelle Le rêve de Papouf, et le rôle de Zozo, en fait, est tenu par Paulette Poulbeau. Et Paulette Poulbeau, c'est la fille de son frère. En fait, le couple Poulbeau ne peut pas avoir d'enfant, et son frère a une petite fille, la maman décède, lui va se remarier, et donc le couple va adopter cette petite Paulette Poulbeau. Et alors après, pour son engagement pour la victoire, il va recevoir la Légion d'honneur et il va ainsi se brouiller quand même avec certains de ses amis qui vont lui reprocher d'avoir quand même pratiqué un peu trop le bourrage de crâne. En 1921, Poulbeau et quelques amis décident de créer la République de Montmartre. Ça, c'est très, très important, justement. Alors que la Commune libre de Montmartre, qui, elle, avait été créée en 1920 par De Pâquis, se proposait plus dans la lignée du journal La Vache enragée de cultiver le folklore montmartrois. La République, elle, au départ, se donne quand même une mission caritative. Le 18e arrondissement ne possède aucun dispensaire. Cette République de Montmartre, justement, va donc se charger d'en créer un qui connaîtra un développement rapide au début des années 30. Donc là, il y aura service médical, distribution de vêtements, de médicaments, une distribution d'aliments pour nourrissons aussi sera organisée. Donc ce bâtiment sera d'abord hébergé par la mairie du 18e. Et ensuite, le dispensaire sera construit sur un terrain qui est prêté par le patron de la Pomponnette, qui est un bistrot du coin. Des médecins donnent bénévolement des consultations. Et Léona Poulbeau, elle organise des distributions de vêtements, elle donne des conseils aux jeunes mères. Et Poulbeau, par le biais de ses dessins, fait connaître le dispensaire. Un arbre de Noël est organisé chaque année, qui réunit 2000 enfants. Alors, ils peuvent aller au Moulin Rouge, au Moulin de la Galette ou encore au cirque Medrano. Jean Gabin, d'ailleurs, encore les Fratellini, ont participé à ces spectacles pour les enfants. Et la République, elle, vit donc des dons et cotisations de ses adhérents. Poulbeau organise aussi la fête au village, et on le voit sur des photos, il tourne la manivelle d'un orgue de barbarie, et il vend des crayons pendant que Léona, elle, vend des frites. Et le dispensaire, lui, disparaîtra malheureusement quelques années plus tard, quand beaucoup de ses parrains décéderont. Donc, il y a une Poulbeau continuera à lutter contre la tuberculose. Il travaillera pour à faire des plaquettes pour les allocations familiales. Il fera aussi de la propagande pour les colonies de vacances. Il reste un fervent défenseur de Montmartre. Hein, et en une journée, par exemple, on peut le voir transformer un terrain vague en square, en fait, qui deviendra une vigne. Il y avait un projet de construction. Donc, il mobilise des gens autour de lui. Et voilà, c'est gagné. Beaucoup plus rapide que les aides actuelles. Hein. Il lutte contre l'implantation aussi d'une industrie polluante sur la butte. À la fin de sa vie, Poulbeau, enfin non même pas à la fin de sa vie, rapidement il est assez malade. C'est un grand gaillard qui fait presque 2 mètres de haut. Et en fait, il a une décalcification des os et il va devenir peu à peu handicapé. Il va avoir du mal à se déplacer. Et après, pour éviter même les trajets entre son domicile et son atelier, il se fait construire une maison avenue Junot, donc à l'emplacement de son ancienne bicoque. Et cette maison... Là, je crois qu'elle fait deux étages. Il y a des petites mosaïques de têtes de gamins qui sont en haut. Il part régulièrement donc se reposer à la campagne. Et c'est un maître en fait que l'on vient visiter dans un des bouquins que j'ai emprunté. Il y a une préface qui est faite par Cavana qui raconte justement qu'il est allé visiter Poulbeau qui était déjà bien vieillissant et fatigué. Et après il regrette presque, il dit mais qu'est-ce que j'ai été l'embêter quoi. C'est tous les petits gars comme moi, les petits jeunes viennent le voir comme ça. Donc Poulbeau est interdit, c'est la Deuxième Guerre, après les années passent, Deuxième Guerre mondiale. Poulbeau est interdit de peindre et d'exposer pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fera sa rentrée parce qu'il avait fait des dessins donc quand même anti-allemands pendant la Première Guerre. Donc il reçoit la visite, enfin il est convoqué à la commandante Tour, lui pouvant plus se déplacer, je crois que c'est sa fille qui y va. Et on lui dit que qu'il ne doit absolument pas se bouger le moindre petit doigt, sinon on lui créerait beaucoup plus d'ennuis. Donc voilà, il ne peut pas exposer nulle part pendant la Seconde Guerre. Donc il fera sa rentrée à la fin de la guerre, mais il meurt en 1946. Ouais. Donc sa succession est compliquée. Léona, elle, ne se soucie pas de préserver son œuvre. En fait, dans le besoin, elle va vendre les droits de reproduction dans un dessin à des revues. Et ce qui restera de l'atelier sera vendu à des collectionneurs, en fait, pour subvenir, elle, à ses besoins. Et l'atelier, lui aussi, sera dispersé, quoi. Et à sa mort, la mort de Léona en 1958, en fait, toute l'œuvre de Poulbeau est dispersée. Et les marchands de Montmartre vont faire leur beurre, eux, de ces mauvais Poulbeau qui sont vendus en série. Et sa reconnaissance viendra après, plus tard, de groupes de collectionneurs qui vont retrouver ces dessins et avoir envie de les rassembler, quoi.
Oui, c'est triste, infiniment triste, que sa compagne, si vous voulez, même si elle n'était pas... Elle était probablement, elle a pas fait ça, probablement de gaieté de cœur, mais qu'il n'y ait pas eu, parmi ses amis, parmi les gens, enfin, ou même les conservateurs de musées, je ne sais pas, que des gens qui se soient bougés pour préserver son héritage, quoi, son héritage de dessin, de peinture, etc., etc., que tout soit parti aux quatre vents mauvais, voilà, du profit, toujours la même chose, quoi, bien sûr. Mais bon, l'essentiel, c'est que quelques collectionneurs aient enfin réagi et essayé de promouvoir son œuvre. C'est pas gagné du tout, parce que bon, nous, on rentre dans ce cirque, voilà, avec nos petits moyens pour le faire vivre, parce que vraiment, quand on s'attache à ce personnage et à son œuvre, c'est quand même assez extraordinaire. Et bon, alors bon, il y a des chagrins qui vont nous balancer dans les dents que oui, mais enfin, il a fait des choses pour la guerre, etc., etc., etc. Oui, bien sûr, c'était pas le seul d'ailleurs. C'est pas ce qu'on lui trouve, c'est pas ces actions-là qu'on trouve les mieux. Mais ça, faut pas que ça obère, que ça occulte, occulte, oui, c'est bien ça, son œuvre, quoi, qui est consacrée principalement à l'enfance. Et je dois dire qu'il y a des choses, mais vraiment, c'est l'enfance, quoi, voilà, c'est pas, si maintenant il y a plus cette enfance, mais peut-être que si, dans les cités, dans les quartier, comme on dit, il y a des petits gamins qui sont, si vous voulez, les successeurs de ces Poulbeau, voilà. Il y en a plus à Montmartre, hein, et peut-être heureusement, parce que bon, on peut pas dire qu'ils vivaient dans des conditions idylliques. Mais enfin, oui, c'est l'enfant éternel, quoi, voilà. C'est l'enfant comme on l'imagine, en tout cas, nous. les pauvres démunis, mais pas démunis d'argent, pas démunis de nourriture, pas démunis de toi, mais démunis de souvenirs de cet ordre, quoi. Quand j'étais enfant, il y avait encore des enfants de mon âge qui pouvaient ressembler à des poulbeaux, mais bon, maintenant, en tout cas, plus à Paris, je pense pas, enfin très peu. Je crois que leurs successeurs sont plutôt justement dans les quartiers défavorisés de nos grandes banlieues, voilà. Et ça serait intéressant d'ailleurs d'essayer de faire un travail là-dessus pour essayer de retrouver cette filiation. Avec un nouveau vocabulaire, évidemment, mais bon, je veux dire, voilà, l'image qui me touche, vous me direz pourquoi, mais c'est curieux, c'est ce petit garçon qui essaye d'allumer une cigarette sous les jupes d'une fille, qui n'a pas évidemment pas de culotte, une petite fille, qui lui dit « tu vas pas me mettre le feu au cul ». Et je trouve que, voilà, c'est assez... en même temps, c'est très pur, c'est très voilà, c'est pas du tout connoté glauque, pédophile et compagnie. Non, pas du tout. Voilà, il y a évidemment, il aborde toutes ces questions, si vous voulez, de l'enfance les exemples amoureux, si vous voulez, les adolescents ou les jeunes gens de cette époque qui n'avaient pas l'argent pour se rencontrer, c'était dans la rue. Et il fallait se cacher parce que bon, c'était pas très bien vu tout ça. Et alors avec la complicité des plus petits, bah ils essayaient qu'ils leur faisaient ce qu'on appelle le P. Qui était là, le PET, qui était là pour surveiller un peu les alentours et les prévenir s'il y avait des fâcheux qui se pointaient. non, ça vous paraît peut-être à vous, vivant dans ce siècle d'opulence, ça vous paraît peut-être un petit peu curieux, toutes ces choses. C'est vrai que c'est curieux, mais en même temps, il y avait une vitalité chez ces enfants invraisemblable, quoi, voilà. Et c'est ce qui est touchant dans la relation de Poulbeau avec eux, c'est justement cette espèce de confiance réciproque qu'ils avaient l'un envers les autres et les autres envers lui. Il est souvent, il a été photographié entouré de plein de ses enfants, de ses Poulbeaux. On apprend comme ça à travers eux, en même temps on apprend un peu l'histoire de Paris, la guerre, les privations, la misère, et ce livre de Bourgeois qu'a évoqué Piquecou, personnellement je trouve ça terrifiant. Moi à un moment je pouvais plus lire, si vous voulez, cette littérature de la misère, parce que là vraiment... Et quand, si on associe ces récits de Bourgeois à ces illustrations de Poulbeau, d'ailleurs Poulbeau aurait très bien pu illustrer ces récits de Bourgeois avec ses enfants, quoi, là. Et j'imagine que, mais dans un recueil de dessins que Piquecou a trouvé dans une bibliothèque à Montreuil. Là. C'est à Montreuil que tu l'as trouvé, le gros?
Non, c'est la réserve centrale de Paris. À Montreuil, il n'y avait pas d'ouvrage sur...
Ouais, la réserve centrale de Paris, heureusement qu'il y a des témoignages. Et Poulbeau aurait pu vraiment illustrer ces textes de Bourgeois, voilà, avec ça aurait été une rencontre superbe, quoi, voilà, pour bien, ça aurait en même temps peut-être un peu adouci, si vous voulez, le côté vraiment, oui, je répète, terrifiant de ces récits sur la misère qui pouvaient exister dans notre pays au XIXe siècle, dans les classes populaires, quoi, voilà.
Ouais. Et moi, je voulais revenir juste un petit peu sur ses dessins de guerre. Là. Enfin, on parlera de son œuvre un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais par exemple, au départ, il était très anti-allemand. Donc, il a fait des dessins comme une petite fille, je crois, qui racontait que les Allemands coupaient les mains des enfants. Donc, il y a une petite fille qui est devant le cimetière où sa main est enterrée. Donc, voilà, ça, c'était très, très virulent anti-allemand. Par contre, après, il est quand même revenu. Donc, il a aussi beaucoup plus fait sur, effectivement, pour les orphelins, les prisonniers. Et donc, il y a un autre dessin où c'est une petite fille qui est dans un cimetière. Et c'est une tombe d'Allemand, et elle est en train de fleurir la tombe en disant « mais lui aussi a droit à des fleurs ».
Tout à fait. Voilà, ça c'est quand même... Rien que pour ce dessin-là, on peut un peu oublier l'auxiliaire propagandiste de la guerre de 14. Voilà, ouais.
Mais bon. Ça, c'est difficile. Je me rappelle quand on a travaillé sur Jean Grave et les temps nouveaux, qu'on était là avec des gens qui avaient toute une conscience politique libertaire et qui, au moment de la guerre de 14, ont tout laissé tomber pour l'Union sacrée. Donc, de toute façon, c'est vrai que nous, on juge après coup, on n'est pas. Mais c'est étonnant que des gens qui ont une conscience politique aussi développée puissent tomber dans ce panneau du patriotisme qui ne sert que les puissants.
Oui, absolument. Oui, là, c'est beaucoup plus grave ce qu'évoque en ce moment Piquet-Coup à propos de ces grands artistes du 19e, enfin du début du 20e, qui ont complètement adhéré à la cause patriotique. Le seul qui adhérait pas, on l'a tué. Voilà.
Dans le marché qui s'éveille dès le premier soleil, sur les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs. Rue Lepic, voiture des quatre saisons offre tout à foison, tomates rouges, raisins verts, melons d'or et prime vert au public. Et les cris des maruchons s'entremêlent en un chant, et le murmure des commères fait comme le bruit de la mer. Rue Lepic, et ça grouille et ça dans cette vieille rue de Paris, et ça chante et ça pleure et ça bat comme un cœur. Le qui se baguenaud au hasard, et des petits rigolos qui viennent faire le lézard. Rue Lepic, et les Jules qui ne font rien ou qui n'en font pas trop, se reposent dès le matin aux terrasses des bistrots. Et là-bas, deux amants sans façon se promènent tout contents, aux marchands de quatre saisons ils achètent du printemps. Rue Lepic, sous les yeux amusés des badauds qui se là, ils échangent des baisers dans un bouquet de lilas. Et la rue monte, monte toujours vers Montmartre là-haut, et ces moulins si beaux, ces moulins tout là-haut. Rue Lepic, rue Lepic, rue Lepic.
C'était Rue Lepic, interprété par Josette Privat.
C'est l'émission Racaille qui évoque dans sa partie artistique la vie du dessinateur Poulbeau. Il n'était pas dessinateur, il était peintre aussi. Il était affichiste aussi. Mmh. Oui, c'est un peu peintre préféré là aussi, qui faisait des magnifiques fusains.
Stenlen,
voilà.
Oui, mais justement, d'ailleurs, Stenlen faisait partie de ses maîtres, ses modèles, et je trouve que le trait de Poulbeau fait beaucoup penser au trait de Stenlen, les arrondis, la douceur, un peu floutée par moments. Enfin,
C'est un très très grand dessinateur. C'est pas seulement le dessinateur des Poulbeau, parce qu'il a illustré des scènes de la vie parisienne, enfin, particulièrement de Montmartre, parce qu'il y habitait, parce qu'il l'aimait, mais c'est assez emblématique aussi de tous les quartiers populaires de Paris et de la banlieue, Voilà, c'est pas bon. Mais oui, il faut insister que c'était un dessinateur exceptionnel, parce que faire des enfants, c'est pas si simple que ça paraît. Pour pas que ça soit nunuche, con, gnangnan, eh bien, il faut quand même y mettre autre chose. Et lui, il a réussi cet exploit, je trouve, pour qualifier ça, ce qu'on veut qualifier, pour en parler, mais moi, je considère que c'est un exploit, c'est-à-dire de pas faire un travail gnangnan. Vous voyez ce que ça veut dire, gnangnan, non? voilà, complaisant avec les enfants. Par exemple, un truc qui m'éclate, mon esprit anard, c'est un petit poulbeau, justement, qui est en train de pisser dans une vasque de bénitier, dans une église. Monsieur, il y a une petite affiche à côté, juste au-dessus. Monsieur le curé sera reconnaissant aux personnes qui lui donnent des bougies et des fleurs blanchies. Tata, merci. Ben. Et il y a son petit copain qui fait évidemment le pet et qui dit « Acré, voilà le vieux !» Ça doit être, c'est le bedeau ou le curé, voilà. Non mais ça déjà, bon, ça... On peut penser, ça dénote quand même un esprit quand même assez rebelle, assez particulier.
Ouais, ouais, il y a aussi un peu ce regard naïf, hein, qui les gamins en fait ils les truquent pas, quoi. Les gamins ils sont très naturels, il y a pas de tricherie dans ce qu'ils représentent, quoi.
Mais, et puis il y a un texte de Poulbeau, la farandole des pauvres tif enfant mort, une ronde parlée. Nous, on est les pauvres, les petits fanfans, les petits flopés, les petits foutus, à qui qu'on flanque sul tutu. Les ceux qui concuit, les ceux se combat, les petits bibis, les petits bonhommes qu'on porte béco, ni dessus de pomme, mais qu'on le jus trique. Pour ouais, c'est un peu pour sirop de gomme et qui passe de beigne à tabac. Les petits gredins, les petites vermines, les petits sans cœur, les petits sans dieu, les chi partout, les pisses aux pieux qui font bas que l'on extermine. Voilà. Ouais. C'est et là on voit une ronde de petits poulbeaux palots. Avec la fumée de Paris, la fumée. Ouais.
Mais il a créé pas mal de petites chansons comme ça quand il faisait du théâtre avec les enfants. Et malheureusement, je crois que ça a été mis en disque, mais ça n'a pas fonctionné. Donc il n'y a plus d'enregistrement disponible de tout ce qui a été fait en musique comme ça, de ces petites chansons des Poulbeaux.
Et là, il y a un petit cartoon à confesse. Alors on voit un petit poulbeau rouquin agenouillé devant la grille de confesse. Là, il y a le curé. Mon père, je m'accuse d'avoir poussé ma grand-mère qui est tombée dans l'escalier, et puis j'ai jeté des graviers dans les bris de la crémière, et puis, j'ai commis un adultère. C'est un petit poulbeau qui le a 11 ou 12 ans, même pas, quoi, voilà. Enfin, c'est quand même quelque chose. Il a illustré Poil de carotte de Jules Renard, c'est quand même quelque chose.
Il a illustré Poil de carotte. Il a illustré aussi un livre qui s'appelle La maternelle. Alors, c'était un prix Goncourt 1910. C'était un bouquin de Léon Frappier. Et en fait, Léon Frappier, à travers ce bouquin, il fait parler une jeune institutrice, et à travers elle, en fait, qui travaille naturellement dans les quartiers pauvres, et il montrait déjà comment l'école de 1910 allait formater les élèves à devenir de bons citoyens, obéissants, serviles, quoi. Ce qui n'était pas beaucoup fait à l'époque, parce qu'il y a des grandes figures qui voyaient quand même, comme Zola, à travers l'éducation, un avenir possible, quoi. Que ce Léon Frappier, en fait, était déjà très, très critique vis-à-vis de l'école.
Ouais, et aussi pour vous dire que c'était pas non plus là à travailler pour l'humanité, une première de couverture, travailleurs unissez-vous. Et là, c'est là qu'on voit le rapprochement avec Stenlen. Là, c'est vraiment, ou alors dans le socialisme, supplément du journal Revue, un petit poulbeau, oui, ça ressemble, enfin c'est fait. Avec des lavis de gris, etc., où le titre est « Vive la commune ». Mmh. Ou alors, dans « Les hommes du jour », on voit un poulbeau encore qui balance des pavés tous les samedis. Non, non. Qui balance des pavés sur les bourgeois, quoi. Voilà.
Ouais, ouais. Il y avait une couverture de l'Humanité aussi pour le 1er mai, je crois, 1911, ouais. qui disait « Aux petits prolétaires, l'avenir appartient ». Alors apparemment, Jaurès était très enthousiaste par ce dessin.
Bah oui, bien sûr. C'est... Voilà, et dans Les Hommes du Jour, c'est là qu'il y a ce fameux nu de cette petite fille qui soulève sa robe et pour que le petit garçon puisse allumer son clope, là où elle lui dit bah, « Me fous pas le feu au cul mmh. ». Il y a, c'est quand même... Ça foisonne, c'est d'une vitalité extraordinaire. Je dis, c'est du noir et blanc la plupart du temps. Non, il y a des illustrations colorées, mais la plupart du temps, c'est du noir et blanc. C'est des lithos, c'est des gravures, c'est vraiment. Et puis alors, ça aussi, il faut dire, ça des publicités, par exemple pour le Myrus. C'est un poêle à bois, un peu comme les salamandres là. Où on voit encore une fois un petit gamin, il y a un chien qui est allongé devant en train de roupiller, et un petit gamin qui fait sécher sa culotte devant le poêle. Voilà, il y a... Alors il a travaillé pour le Dimanche illustré, le coup de patte, hein, satirique illustré. Voilà, la semaine nationale... Alors des affiches aussi, la semaine nationale de l'enfance. Voilà, il a travaillé pour d'autres choses. Les humoristes au Palais des Glaces. Ah non, c'est le 25e. Ah oui, il y avait le Salon des humoristes.
Voilà,
aussi.
Il exposait, il faisait partie d'ailleurs du Salon des humoristes. Il exposait régulièrement, sauf pendant cette Deuxième Guerre où là, il a été interdit d'exposer au Salon.
Ouais, et là, il y a une. Bah, c'est dans ces choses-là que je me réjouis le plus. On voit une illustration superbe, d'ailleurs. On a eu du fusain, c'est du fusain, et puis de la sanguine. Un gamin, il a trois petits-enfants qui tient par la main, et il dit à un autre gamin qui est avec sa patinette, « Quand t'auras des mots autant que j'en ai, tu rigoleras moins. » Et on voit aussi, il y a une photo magnifique de Poulbeau au milieu de... à l'arbre de Noël de 1931 au Moulin de la Galette, au milieu d'une nuée d'enfants de Poulbeau, justement, avec leurs casquettes libérées enfoncées jusqu'aux yeux. Là, c'est quelque chose. Hein. C'est, comme disait ma camarade Picou, c'est la guerre des boutons. Quoi. Voilà, on est en plein dedans.
Ouais, alors il avait donc il a eu beaucoup de demandes. Il avait aussi des fois des demandes de classe sociale plus aisée, où là, il fallait que ses enfants ils soient un petit peu relookés, plus propres sur eux. Et en fait, Poulbeau a systématiquement refusé de changer le style de ses enfants, de modifier les enfants.
Tout à fait. Bah, parce que... Alors là, il y a une affiche sur la clinique de la République de Montmartre. Dispensaire des petits Poulbeau, arbre d'un Noël, et les Fratellini viendront faire rire les gosses au Moulin de la Galette. Voilà, les Fratellini aussi, qui étaient des clowns célèbres, qui venaient gratuitement pour faire rire les... Comme vous a expliqué Piquet-Cou, pour Gabin, pour tous ces gens-là, qui probablement, pour les bonnes œuvres de... Oui, enfin, bon, je...
Ouais. Alors à un moment donné, il a créé deux poupées, donc ça va être une demande qu'il a eue. Je crois que c'était pour concurrencer en plus l'entreprise du jouet allemand qui prenait de plus en plus de place. Donc il a créé deux poupées à l'image de ses Poulbeau, c'est Nanette et Rintintin. Et en fait, je crois qu'il y a une photo dans le bouquin. Alors Nanette et Rintintin, c'est un clin d'œil en fait au nom en plus que se donnaient dans l'intimité Francis Poulbeau et sa compagne Léona. Sauf que Nanette c'était lui, et Rintintin c'était elle. Et en fait, ces poupées ont pas marché quoi, parce qu'elles étaient trop réaliste pour le public auquel elle pouvait s'adresser. Quoi. Ça a été un échec.
Ouais, là, il y a une illustration encore. Je vous parle de ça parce que j'ai le magnifique livre que Piquet-Cou a emprunté à la réserve centrale des bibliothèques de Paris. Hein, c'est dans une classe où alors le maître qui est... À cette époque-là, les classes, il y avait une estrade et dessus, il y a un bureau et dessus, sur le bureau, enfin sur l'estrade et derrière le bureau, il y avait un maître là. Alors les enfants étaient tout en bas. Il y en a un qui est en train de jouer avec un serpentin qui souffle, vous savez, ça se déroule. Et un autre qui répond à l'instituteur parce que Sansonnet est absent. Ben Monsieur Sansonnet, il a été faire la révolution avec son père. Là, je trouve ça quand même... Ça se trouve, il n'y a pas du tout de révolution, mais c'était une excuse. Quoi.
Ouais. Il y en a un, c'est pareil, où c'est, ils sont 3-4 gamins dans un lit, là, dans une petite mansarde.
Ah ouais,
et il y en
ouais.
a un qui dit, bah, tu verras quand il y en aura un de plus, on ne va pas s'amuser.
Oui, parce qu'il y en avait un qui râlait, quoi. Alors... et donc, voilà. Non, mais c'est ça. Puis il a fait aussi des affiches. Aider la Ligue nationale contre le taudis. Et on voit cette pochette de 5 cartes postales sera mise en vente à partir du 1er mars. Des cartes postales dessinées par Poulbeau. Et l'affiche, on voit un toit de Paris avec un vasistas et une petite fille qui est dedans, là, avec une écharpe rouge. Et voilà, c'est un taudis, donc... Très bien, un autre. Alors, c'était trois gamins, et il y en a un qui est assis sur un banc de pierre, et puis un autre qui lui dit « Toi qui es menteur et rageur, tu feras Hitler et on te floquera la fessée. » Voilà les jeux entre les poulbeaux ouais. aussi.
Mais en fait, c'est comme dans l'extrait de nouvelle que j'ai lu, effectivement, où les gamins jouent à la guerre. Il a illustré beaucoup de ses enfants
oui,
qui sont déguisés,
fait, ouais.
qui prennent tout ce qui traîne dans l'environnement pour se faire fabriquer des armes, pour se déguiser.
Oui, c'est ça, absolument. Oui. Non, il y a toute cette partie, mais encore une fois, qui on est pour juger ces choses-là C'est facile quand on est au chaud, en sécurité, qu'on a de quoi casser la croûte, qu'on n'est pas dans la merde. Parce que lui, il a payé de toute façon, il a payé très cher toutes ces choses-là. Donc, c'est une traversée du désert à la fin de sa vie. Hein. Comme vous l'a expliqué Piquet-Coup, moi je fais que radoter, que répéter ce qu'elle dit. Mais bon, je prolonge un petit peu son discours. Avec Poulbeau, qui, à la fin de pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été interviewé par la Gestapo, à propos, justement, des dessins de propagande et des affiches qu'il a faites pendant la guerre de 14, où, évidemment, il critiquait les Allemands d'une manière assez difficile, pour les Allemands, en tout cas. Et voilà, on lui a dit, alors maintenant, vous avez le deal, hein, ou vous fermez votre gueule, c'est-à-dire que vous ne dessinez pas. D'ailleurs, on vous l'interdit. Ou alors, si vous dessinez, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, quand c'était une interview avec la Gestapo, je dois dire qu'on devait quand même réfléchir à deux fois avant de s'y coller. Et puis, il fallait vivre. Alors, il a quand même fait quelques dessins pour Vichy, évidemment, parce qu'il fallait qu'il bouffe. La plupart des dessinateurs, d'ailleurs, le faisaient sans état d'âme. Mais en tout cas...
Toujours sur des questions sociales.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis, alors, il y a eu aussi une anecdote qui est terrible, parce que ça, justement les gens qui jugent, quoi, comme ça a été fait pendant l'épuration de la dernière guerre. Là, il y avait des équipes d'épurateurs, pas tristes, hein, voilà. Et là, c'était, si vous voulez, il avait eu Sénep qui travaillait à Radio Londres comme speaker avec Jean Oberlé, dessinateur célèbre, beaucoup de dessinateurs de journaux, les plus médiocres d'ailleurs, avait pendant l'occupation collaboré à des journaux ouvertement pro-allemands. Poulbeau, vieux, célèbre, n'en avait pas fait un seul. À la Libération, Sénep allait avec Henri Monnier l'en féliciter. On n'a pas vu de dessin de vous pendant l'occupation, dirent-ils à Poulbeau. Oui, croyez-vous, répondit Poulbeau en se méprenant parce que j'avais fait, pendant la dernière guerre, des tas de dessins contre eux. Les Fritz m'ont empêché de le faire pendant celle-ci. Et pourtant, avec les Anglais et les Juifs, je n'aurais pas manqué de sujet. Alors eux, ils ont interprété ça complètement de travers, parce qu'il y avait Juifs et Anglais, et Sénep et Monnier s'en retournèrent rengainant leurs compliments. L'anecdote paraît cependant un peu sévère. De plus, Sénep ne fut certainement pas très bienveillant à l'égard de Poulbeau, car celui-ci n'exprima jamais de sentiments antisémites dans ses dessins, même durant les années 30, où il était très fréquent dans la presse, et même tragiquement banal. Voilà. Donc, encore une fois, c'est toujours ces moralistes de la dernière heure. Voilà. Le camp de Buchenwald et Mauthausen devait nous apprendre que les tortionnaires de 14 n'étaient que des enfants. Il remarque ça dans une interview en février 46. Ça veut dire que les nazis étaient infiniment pires que les Allemands qu'on avait affrontés pendant la guerre de 14. Voilà. Voilà, c'est ça qui est un petit peu pénible.
Ouais. Mais en tout cas, ce qui serait intéressant, ce serait de se promener, d'aller voir tous ces marchands à Montmartre là, qui vendent des Poulbeaux et ouais. leur demander ce qu'ils connaissent réellement de Francisque Poulbeaux. S'ils connaissent un peu l'histoire de ces petits garçons là, qui vendent, qui sont hideux comme tout, ces ouais. garçons et ces petites filles.
Ouais, ouais. J'ai quand même un gros doute.
Je ne suis même pas sûr qu'ils se rappellent de qui était Francisque Poulbeaux.
Non, non, ils se rappellent surtout. Tout ce qui est, c'est ça, le détournement, si vous voulez, d'une image d'enfants magnifiques dessinés par Poulbeaux, tous ces petits gavroches là, voilà, qui sont là à Paris, témoins d'une histoire populaire magnifique, qui une histoire populaire qui s'est perpétuée peut-être depuis le Moyen Âge jusqu'à depuis François Villon jusqu'à ces jours où Poulbeaux a travaillé à Montmartre, et voilà en faire des choses horrible, répugnante, voilà, pour gagner du fric. Je me souviens avoir été à Montmartre, quand j'y habitais en tout cas, assez souvent en place du Tertre, où il y avait ces espèces d'horreurs, et je comprenais absolument pas qu'est-ce que ça foutait là, quoi, voilà. Et à ce moment-là, je connaissais pas vraiment l'histoire de Poulbeaux. Mais déjà, c'est pas la peine de connaître l'histoire de Poulbeaux. J'avais quand même dans la tête quelques images de son travail, de voir ce que c'était devenu dans les mains de quelques artistes, quelques gribouilleurs notoires et les marchands qui vendaient ça. Voilà, c'était.
Ouais, alors on peut dans le musée de Montmartre, donc là 12 rue Cortot, justement, il y a des collections permanentes et il y a un ou deux Poulbeaux qui sont sur les murs.
Oui, rue Cortot, c'est vrai qu'il y a eu Rubens, mais il y a aussi Valadon.
Renoir.
Vous voyez dans quel état je suis à la fin de l'émission. Il y a eu Renoir, donc, mais il y a aussi Valadon et Utrillo. D'ailleurs, il y a son atelier, son ancien atelier à Valadon, qu'on peut visiter. Voilà. C'est magnifique, hein. C'est encore un morceau de Montmartre relativement préservé à un parc. Là, on peut imaginer ce qu'était Montmartre au temps du Maquis, etc.
Et du Lilas,
ouais. Ah oui. Non, c'est... Les gens du musée sont pas franchement très sympathiques.
Ouais, mais enfin, le lieu est un lieu de dépaysement au milieu de toute cette, de cette foule partout dans ces petites rues. Là, c'est vrai qu'on rentre dans ce musée, on se met dans le jardin et là, on se repose, quoi.
Oui, parce que là, il n'y a pas une affluence qui peut perturber la quiétude du lieu. Hein. C'est quand même relativement calme. Et voilà, on aime bien, nous, cet endroit. La rue est quasiment toujours déserte. C'est comme la rue Saint-Vincent, c'est comme ces choses-là, c'est tout à fait où on peut. Moi, quand j'habitais là-bas, au pied de la butte, rue de Raymond, la rue Lamarque, je montais la rue Lamarque, je prenais les escaliers là, jusqu'en haut, et le matin tôt, l'hiver ou l'été, mais tôt, avant que les peintres soient là ou les touristes, et je dois dire qu'on peut retrouver. C'est curieux ce lieu, parce que artistiquement, ça n'a plus rien. Vraiment de remarquable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a une atmosphère encore, malgré tout, quand il n'y a pas les touristes, hein, il y a une atmosphère, il y a quelque chose quand même qui reste, il y a une âme, enfin, si on y croit, en tout cas, moi je ressens, vraiment.
Oui, c'est vrai, parce qu'il reste quand même des rues qui ont ce cachet, déjà parce que c'est des rues qui montent ou qui descendent, donc ça donne un cachet, des rues qui peuvent être assez étroites, des escaliers, donc il y a quand même cette âme qu'on peut imaginer si on est un peu baigné de toutes ces images. En fait, on replonge assez facilement dans cette atmosphère, même si effectivement la rue Le Pic, la rue des Abbesses, hein, sont des rues très gentifiées avec des boutiques maintenant de produits de luxe, de vêtements, de alimentation chère, enfin voilà.
C'est... Ouais, ce qu'il n'y avait pas encore dans ma jeunesse, voilà, c'était encore resté dans son jus, quoi. Il n'y avait pas encore toutes ces choses, vraiment ces attrapes touristes, ces attrapes mouches, on peut dire, voilà, qui sont déplorables, enfin, dans une ville comme Paris. Tous ces marchands du temple, là, c'est quelque chose de vraiment horrible, quoi, parce que bon, ça donne une image de la France du bon goût. Moi, j'y ai jamais cru, mais enfin bon. Et les gens, ils se, il se gausse, il se vante du bon goût français, bah, le bon goût français, il en prend un sale coup quand vous vous baladez dans ces coins-là, comme quand vous vous baladez dans beaucoup de rues touristiques de Paris, du côté de Notre-Dame, sur les quais de Seine, etc. Voilà, tous ces marchands de merde là, qui sont du gras. Sur une image de Paris qui n'existe plus, voilà, et puis qui existera de moins en moins, parce que plus ça ira, plus ça sera dédié encore au commerce pourri de souvenirs merdiques, et généralement les touristes qui viennent à Paris, où ils ont perdu leur goût pour les belles choses.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourrie. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
C'était La Complainte de la Butte, interprétée par Mouloudji. Voilà pour cette émission qui se termine avec Francisque Poulbeau, une émission réalisée par Piquecou et Robert. J'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, je vais vous informer d'un spectacle qui va se jouer à Saintes le 13 mai prochain, le vendredi 13 mai à 20h45 à l'Escarmouche. Il s'agit d'un spectacle intitulé « Les Lulus » et qui est réalisé par Jean-Luc Valéjas et sa compagne Sophie, j'ignore son nom de famille, qui, elle, est conteuse et lui est peintre. Et c'est un spectacle qui va nous parler de peinture. Alors, je n'ai évidemment pas vu ce spectacle, mais je vais y courir bientôt et je vous en reparlerai plus tard. Et en tout cas, il est question d'aller rencontrer ces deux personnes pour qu'ils nous en disent un petit peu plus sur leur travail. Et ce sera l'occasion d'une nouvelle émission qui va avoir lieu d'ici la fin de l'année, d'ici l'été. Voilà, j'espère que tout ça vous a bien intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos informations bien en avance, hein, comme Jean-Luc l'a fait là, et de nous envoyer tout ça sur le site
radio.labigaille.org.
Merci Jérôme, radio.labigaille.org. Très bonne continuation à vous tous et à une prochaine. À bientôt. Thank you.
Bigalo.
Ouais. J'espère qu'il a pas été sage aujourd'hui.
Je comprends pas. Pourquoi vous dites ça?
Ben, je sais pas. Parce qu'il faut un petit peu savoir désobéir. Réinterroger le cadre, c'est une forme d'intelligence, non?
Je regarde désobéir l'orage aux statistiques du prévaloir et je lui souris comme Horace avec une incisive noire. Sauf l'enfant du parc de mon sommoir, je trouve pas que ce soit dommage que les coups de foudre n'existent qu'aux urgences, les soirs d'orage au service des grands brûlés. Désobéir n'est pas juste un verbe quand t'observes ma peau embrumée de ces figures de Lichtenberg. Désobéir aux exactions des salazistes de Lisbonne, je suis protégé par le dragon, le griffon, le phénix et la licorne. Les grands esprits ne se rencontrent pas, les grands esprits sont solitaires. Je viens de ces latitudes qui comptent pas, où on est toujours seul sur terre. Les graines du mal dans mon sachet, si enfoncé puis germe. Les ténèbres ne m'ont pas caché, mais forment mon unique épiderme. Ils viendront me pendre à l'arbre, pendant que je serai en balade. La place du bien est en prison dans un système qui rend malade. Ils font passer des gens affables pour des mafieux de calabre. Car une hirondelle Twitter peut faire le printemps arabe. Moi je vais l'aubépine à me débarrasser de celle que j'aimais le soir. Quand j'arrachais la haie d'aubépine pour embrasser mademoiselle Swan, je me mène loin dans la nuit et je n'agrippe plus le rivage. Si l'esprit est un grand navire, mon Titanic a pris le large. Je reviendrai plus mon amour, va voir le fils de chienne en face. Je reviendrai plus mon ami comme la varicelle et l'enfance. Berger, garde ton troupeau perdu de moutons qui ne savent plus bêler. Moi mes idéaux et perdurent au de la nuit en voiture bélier. Je préfère mourir demain que de vivre vieux une vie sage. Prends des méandres au creux des mains et souffle-moi dans le visage. N'oublie jamais de jamais m'aimer, désobéir aux trucs trop bas. Surtout si c'est moi qui les ai dit, nos nuits de chevauchés sauvages. Ils viendront me pendre à l'arbre pendant que je serai en balade. La place du bien est en prison dans un système qui rend malade. Ils font passer les gens affables pour des mafieux de calabre. Car une hirondelle Twitter peut faire le printemps arabe.